listening and listen to your children instead of dissing them. Senator Dole doesn't understand the younger, like they be saying want you, but we be saying want. They get me dumb with every summer.
Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Canus 102.2, la plus rebelle des radios. On vous le disait à l'instant, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe de Lyon de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble pour une heure d'actualité sociale, politique. On va aborder pas mal de sujets aujourd'hui. Et puis, un peu comme à notre habitude, on commence quand même par quelques petites annonces.
Et oui, salut, on commence... On commence les annonces évidemment avec l'Antifa Fest qui commence demain. Il y aura des conférences, des débats, des tables de presse, évidemment des concerts aussi bien évidemment, qui démarrent vers 19h. Et pour ces 10 ans, le festival rappelle d'ailleurs l'histoire de sa création. Tout a commencé en 2013 suite à une forte répression sur le milieu antifasciste. 25 militantes et militants avaient été arrêtés en essayant d'interrompre une manifestation fasciste des jeunesses nationalistes et œuvres françaises sur Lyon. La police réprime aussi préventivement les rassemblements antifascistes. La répression, la montée en puissance des groupes d'extrême droite sur Lyon et la mort de Clément Méric la même année poussent les antifascistes lyonnaises et lyonnais à organiser un festival affiché antifasciste et contre les oppressions le week-end du 13 décembre 2013, c'était il y a 10 ans tout pile. Il devait y avoir qu'une seule édition, mais 10 ans après, il est toujours là. Voilà, donc ça commence demain dans la nouvelle salle du CCO La Rayonne, au 7 rue Henri Leguet à Villeurbanne. Et pour le reste du programme, vous pouvez évidemment le retrouver sur rebellion.info.
Oui, très beau programme d'ailleurs, tout au long de la semaine, après la soirée d'ouverture, la lutte et la fête festive demain soir, des débats quasiment tous les jours. On peut notamment signaler celui de dimanche après-midi à la librairie La Griffe, puisque la librairie La Griffe recevra le collectif antifasciste La Horde, qui a publié un livre des éditions Libertalia, après les 10 questions sur l'anarchisme de notre camarade Guillaume Goutte. Et bien, c'est 10 questions sur l'antifascisme que le collectif La Horde a publié et viendra présenter dans le cadre de l'Antifa Fest ce dimanche à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement. Débat fort intéressant. Et puis, signalons quand même que, à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour fêter les 10 ans de l'Antifa Fest, la soirée de demain d'ouverture, soirée de concert rap hip-hop avec Medine en tête d'affiche, est un vrai succès. succès. Mauvaise nouvelle, c'est que c'est tellement un vrai succès, c'est que c'est complet. C'est complet de chez complet. Il n'y a plus de place en vente, donc ça ne sert à rien de vous rendre à la Rayon demain soir. Malheureusement, il n'y aura pas de place vendue à l'entrée. Voilà, partie remise, mais qu'on rattrapez-vous sur toute la série de débats et d'autres initiatives. En tout cas, c'est une belle façon de fêter ces 10 ans de l'Antifa Fest.
Et autre actualité, c'est en ce moment même à l'Alternatibar qu'a lieu une table ronde contre les projets routiers. C'est une présentation des collectifs en lutte contre les projets routiers écocides dans la région lyonnaise. Quels sont ces projets? Quels sont les collectifs qui s'y opposent? Comment sont-ils structurés? Quelles sont leurs stratégies? Et surtout, comment s'engager à leur côté? C'est proposé par des collectifs de la Déroute des routes, dont on vous a déjà parlé ici, qui est en lutte contre, pour le côté local, le demi-échangeur de l'A7 et la déviation de la route nationale 88. C'est maintenant, là, tout de suite, ce soir, à l'Alternatibar. Ça a commencé à 19h30. C'est montée de la Grande Côte, donc en bas des pentes de la Croix-Rousse. On vous en voudra pas, hein, si vous coupez l'émission tout de suite pour y aller. Vous pourrez nous écouter en rediffusion sur le site de Radio Canu.
Dès demain, fin de matinée.
Et demain, fin de matinée, justement, à 11h, au Breteau, il y a le départ d'une manifestation contre la casse de l'assurance chômage et contre France Travail à l'initiative de l'Assemblée des Intermittentes. On le sait, hein, le statut d'intermittent, il est déjà bien compliqué, mais il va devenir de plus en plus contraignant. Et demain, ils et elles vont marcher pour le droit des intermittents à des arrêts maladie et à un congé paternité, pour la revalorisation des allocations planchers, pour un droit d'option sans condition et contre le recul de l'indemnisation des chômeurs et chômeuses et contre la mise en place plus globale de France Travail. Voilà, donc demain, 11h au Breteau. Et enfin, une autre initiative qui a lieu aussi en ce moment même, qui a commencé à 20h, c'est devant le Crous de Lyon, face au manque de chauffage dans plusieurs résidences Crous de la métropole de Lyon. Des étudiantes et étudiants s'organisent et appellent à les rejoindre tout de suite là maintenant, devant le Crous de Lyon. Voilà pour les annonces.
Peut-être rappeler quand même les annonces d'ouverture habituelles de la librairie La Plume Noire.
Évidemment, du coup c'est le mercredi de 17h30 à 19h30, juste avant cette émission, et les samedis de 15h à 19h, c'est au 8 rue Diderot, dans les Pentes.
Librairie donc libertaire, autogérée par les militants et militantes de l'UCL. On va rentrer tout de suite dans le vif de l'actualité, dans cette émission Idées Noires, en revenant sur le drame qui a eu lieu à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, il y a maintenant plus d'une dizaine de jours. C'était pas ce week-end, c'était le week-end précédent. La mort d'un jeune, Thomas, 16 ans, jeune lycéen, qui a été poignardé par un autre jeune d'une vingtaine d'années, dans la nuit de samedi à dimanche, à la sortie d'un bal, ou en tout cas au moment à l'occasion d'une risque, à l'occasion d'un bal de village. Cette situation, bien sûr, elle est dramatique. La mort d'un jeune, c'est toujours quelque chose de catastrophique, de se faire enlever, faucher la vie en pleine vigueur et en pleine joie à ce moment-là. Néanmoins, ce qu'on voudrait dénoncer, c'est les manipulations politiques qui sont exercées autour de ce drame et les tentatives de récupération par l'extrême droite, parce qu'aussi, tout aussi dramatique que soit la mort de ce jeune et la profonde peine inévitablement de ses parents, de sa famille et de ses amis. Malheureusement, les rixes dans les bals et les violences entre jeunes hommes dans les bals de village, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis que les bals de village existent, avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Là, on a atteint une des conséquences les plus dramatiques. Les affrontements entre bandes rivales, avant de villages opposés, et aujourd'hui éventuellement de quartiers opposés, pareil, ne sont pas quelque chose de nouveau et n'ont strictement rien à voir avec ce que l'extrême droite agite, c'est-à-dire la montée d'une soi-disant insécurité et la montée d'une soi-disant insécurité qui serait par ailleurs le fait de, bien évidemment, les conséquences de l'immigration et des jeunes issus des quartiers populaires à forte proportion de personnes d'origine immigrée. Alors, depuis ce drame, l'extrême droite, elle s'agite sur les réseaux sociaux, elle s'agite dans les discours haineux. Elle s'agite aussi dans la rue, avec des démonstrations de force et des tentatives de violence, telles ce qui s'est passé samedi soir, justement, dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, quartier populaire dont serait justement issu le jeune qui aurait été responsable des coups de couteau. En tout cas, où l'extrême droite a fait une descente d'une petite centaine de militants, hurlant des slogans racistes et faisant une démonstration de force, mais une descente qui a à la fois viré à l'échec, mais a à la fois médiatisé ces actions coup de poing de l'extrême droite violente. On peut légitimement se demander qu'est-ce qui restera de cette tentative d'attaque de l'extrême droite qui s'est donc déroulée ce samedi 25 novembre dans le quartier de la Monnaie à Romans. Bien sûr, des militants, des vidéos de militants fascistes humiliés, d'abord défilant fièrement dans les rues de ce quartier, puis humiliés, ou est-ce qu'il en restera aussi la preuve que l'extrême droite vient de franchir un nouveau cap en termes d'organisation et de violence ? Et bien, indéniablement, il va rester certainement un peu des deux. Car si l'attaque de ce quartier populaire a rapidement échoué, ben n'en demeure pas moins, on pourrait dire, un signal de montée en puissance du fantasme du fameux choc des civilisations qui est aujourd'hui porté par l'extrême droite et qui est banalisé par des relais politiques qui malheureusement sont de plus en plus nombreux. Alors on le disait, depuis le meurtre de Thomas, ce jeune homme de 16 ans, donc tué lors d'un bal exactement à Crépol quelques jours plus tôt, le quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère a été désigné par l'extrême droite comme étant celui de l'assassin. Et bien que l'enquête soit toujours en cours et que 9 personnes ont été mises en examen pour des motifs tels que meurtre en bande organisée et tentative de meurtre, l'extrême droite a déjà choisi sa cible. Sa cible, c'est l'immigration, c'est les cités. Et donc, en guise de réponse, des militants issus de divers groupuscules violents se sont rassemblés à Romans-sur-Isère samedi dernier, samedi 25 novembre, aux alentours de 18h, et ont tenté d'investir le quartier de la Monnaie. Ils ont été rapidement bloqués par les CRS. Il s'en est suivi des affrontements et la déroute des agresseurs, des militants d'extrême droite, mais sur les réseaux sociaux, ce qu'on retenait le lendemain de l'attaque qui avait lieu à Romans-sur-Isère, c'était des vidéos d'assaillants captifs et couards, 17 fascistes en garde à vue, 2 blessés, et puis la honte pour la plupart d'eux. Cette équipe de Nervi avait été mise en déroute et son chef, qui se surnomme Gros Lardon, en l'occurrence Maxime L, membre de la division Martel, avait été rapidement neutralisé, filmé par les habitants et avait présenté un visage pathétique, voire ridicule. Mais cette action, elle a aussi un bilan judiciaire lourd de conséquences pour l'extrême droite, puisque 6 des militants qui ont participé à cette descente ont été condamnés à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme et se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Du coup, on pourrait se dire que c'est une pitoyable descente et démonstration de force pour l'extrême droite, mais malheureusement c'est pas aussi simple de le réduire à cela, parce que si l'attaque du quartier de la Monnaie est un échec militairement, on pourrait dire, elle est cependant quand même un signal de plus en plus de la montée en puissance de l'extrême droite qui s'est permis d'attaquer une cité qui était un de ses vieux fantasmes. En effet, au cours des 20 dernières années, hormis quelques préparations d'attentats, l'extrême droite s'en tenait à des attaques de locaux militants, comme malheureusement l'attaque de la librairie La Plume Noire qu'on a vécue à plusieurs reprises sur les pentes de la Croix-Rousse, des batailles rangées avec les antifascistes, des agressions de militants et des agressions racistes. Et la confrontation physique avec les jeunes des quartiers populaires avait beau être un fantasme persistant. Il suffit de se rappeler par exemple les appels à former des milices anti-casseurs pendant les révoltes urbaines qui ont suivi l'été dernier la mort du jeune Naël. Et jamais durant ces 20 dernières années, des militants ne s'étaient coordonnés nationalement pour commettre des agressions dans un quartier populaire. Et même si samedi soir, dans le quartier de la Monnaie, ils se sont heurtés au mur du réel, et en particulier de la police pour une fois, un palier a quand même été franchi lors de l'attaque à Romans-sur-Isère. Et ce fameux fantasme raciste de la confrontation avec une population d'origine immigrée a été quelque part une demi-réalité. Alors parmi ces militants présents dans la Drôme, qui ont on retrouvait en tête un groupuscule qui s'appelle la Division Martel, bien évidemment triste nom qui fait référence à Charles Martel et soi-disant au mythe d'avoir bouté les Arabes à Poitiers, groupement d'ailleurs qui depuis Gérard Darmanin veut désormais dissoudre. On avait aussi les Byzantins de Vandal Bézac, directement venus du Doubs et de Besançon, ou encore il y avait le groupe mayanais Medouana Noctua, ainsi que divers militants isolés, dont certains étaient issus d'ailleurs de villes plus proches comme Grenoble et bien sûr Lyon. La plupart ont été identifiés comme étant des habitués des actions de rue de l'extrême droite, et l'attaque du quartier de la Monnaie aurait pu être bien plus destructrice que ce qu'elle n'a été, parce que selon une information diffusée par France Info, certains des assaillants possédaient les noms complets des principaux suspects du meurtre de Thomas, leur adresse, leur numéro de téléphone, ainsi que les prénoms et les noms des membres de leur famille habitant dans le quartier de la Monnaie. Alors, pourquoi cette démonstration de force qui a tourné à la déroute n'est pas qu'une débâcle et une humiliation pour l'extrême droite? Parce que les membres du commando qui ont participé à cette descente, eh bien, comptent profiter de la visibilité de leur action pour passer pour des courageux de service. Et depuis samedi, ils ont adapté leur discours à la situation sur les réseaux sociaux. Un de leurs éléments de langage qui transparaît au fur et à mesure que les visuels et vidéos postés sur des canaux comme Telegram, par exemple, montrent leur déroute. Ils prétendent qu'il n'y a pas eu de défaite, mais un sacrifice mûrement réfléchi, qu'ils avaient tout à perdre, mais qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'allumer la mèche. En gros, par ces déclarations, les militants se rêvent en première pierre de l'édifice accélérationniste. Alors, l'accélérationnisme, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie complotiste qui soutient qu'une guerre civile entre Français de souche et populations d'origine étrangère est quelque chose d'inéluctable et qu'il vaut mieux la déclencher avant que la proportion d'immigrés ne soit trop nombreuse. Et bien, ils inscrivent leur action dans cette stratégie. Leur objectif est donc triple: renforcer une fois encore la thèse du choc des civilisations, susciter de nouvelles actions ou encore recruter tout simplement de nouveaux membres. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, des visuels appelant les militants isolés à rejoindre les groupes locaux sont apparus sur de nombreux réseaux sociaux. Au-delà de ça, et encore peut-être plus inquiétant, cette descente de Romans-sur-Isère a aussi ouvert une nouvelle séquence de manifestations pour l'extrême droite, parce que plus d'une dizaine de manifestations ont déjà eu lieu. Une fois passée la marche blanche pour Thomas, qui était organisée par la famille et qui a réuni 6000 personnes à Crépol, les militants d'extrême droite se sont précipités à organiser des rassemblements à Paris, à Albi, à Toulouse, à Bordeaux, Annecy, Colmar, Rennes, Aix-en-Provence, Reims, Laval, Grenoble, Lyon et bien sûr Romans-sur-Isère. Au total, malgré toutes ces villes citées, c'est pas des centaines de milliers de personnes, ça serait un millier de personnes qui ont été comptabilisées par les renseignements généraux, ce qui montre que l'extrême droite a encore du mal à s'afficher publiquement dans la rue, ses militants comme ses sympathisants. Mais ces manifestations n'étaient toutefois pas de même nature que celles sur Romans-sur-Isère. La plupart du temps, elles ont agrégé des dizaines de personnes avec des prises de parole et des photos sur les réseaux sociaux. Et puis, parfois, elles ont rassemblé plus d'une centaine de manifestations dans des cortèges mobiles, comme à Laval ou à plus près de chez nous, à Annecy, où la ville a servi de point de chute à toute l'extrême droite savoyarde. La manifestation, elle était déclarée en préfecture et c'est Reconquête, le parti de Zemmour, qui a fait le lien entre les pro-Zemmour, les néo-nazis et les catholiques intégristes de Civitas. Une manifestation qui est restée cantonnée, elle, par contre, au centre-ville, qui s'est pas amusée à aller dans les quartiers populaires et qui s'est rapidement dispersée à la fin, mais où un journaliste a quand même tout de même été agressé. Et puis, d'autres manifestations ont pris, elles, d'autres aspects, celui de descente nocturne à visage couvert, comme à Reims, à Rennes, et puis bien sûr, vous l'aurez compris, et on le donne dans le mille, à Lyon. À Lyon, ou pas plus tard que avant-hier, dans la nuit de lundi 27 à mardi 28, dans notre ville qui est connue pour la forte activité de ses groupes groupuscule d'extrême droite, bah, c'est le collectif Les Remparts, qui est une recomposition de génération identitaire, qui a appelé à manifester, et une manifestation d'une petite centaine de personnes est remontée au cri de Français, réveille-toi, tu es chez toi, jusqu'à la place des terreaux, sans que, même si les gyrophares de la police encadraient cette manifestation, sans que ceux-ci n'interviennent ou ne fassent quoi que ce soit pour dissoudre la manifestation ou interpeller les protagonistes. Et puis d'autres manifestations sont prévues cette fin de semaine, par exemple à Lille, à Bordeaux. On voit bien que l'extrême droite, donc, elle se sert de cet événement pour tenter d'occuper la rue. Et puis au-delà de ça, on assiste aussi à un véritable changement de discours global, puisque l'attaque de Romans-sur-Isère consacre en outre une victoire de l'extrême droite sur le plan du discours politique. La démonstration la plus éclatante reste quand même l'intervention d'Éric Ciotti des Républicains, qui a d'abord refusé ce week-end de condamner l'attaque sur Romans-sur-Isère, avant de s'y résigner à demi-mot lundi, considérant, pour reprendre ses termes, mais qu'on veut bien valider, que des idiots avaient manifesté. Et en tout cas, le ténor des Républicains a toutefois refusé de mettre sur le même plan la mort de Thomas et le rassemblement d'extrême droite, comme si une quelconque comparaison avait du sens, ces deux choses qui n'ont strictement rien à voir. En tout cas, il y a quelques années, les dirigeants de droite se seraient certainement sentis obligés de condamner une attaque de néo-nazis armés, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, la grille de lecture elle a changé. La thèse du choc de civilisation est désormais admise, et certains éléments de langage qui ont été popularisés par le Rassemblement National et par Reconquête sont même en partie repris par le gouvernement. Par exemple, Olivier Véran, qui était en déplacement à Crépol justement ce lundi 27 novembre, a avoué craindre un basculement de la société et a ajouté que le meurtre de Thomas n'était ni une bagarre, ni un risque, ni un fait divers. Qu'est-ce que c'est donc alors? Il s'est bien dispensé de nous le préciser, mais il laisse planer le doute, et ainsi il alimente toutes les spéculations qui vont dans le sens de l'extrême droite. En tout cas, les ténors du Rassemblement National et de nos Reconquêtes, eux, ne s'échinent même plus à passer sur tous les plateaux télé. On voit bien que leur travail a déjà payé, et leurs mots sont dans toutes les bouches, malheureusement. Et on voit bien évidemment de dédiabolisation. Le chef du RN, Jordan Bardella, s'est même offert le luxe de condamner l'attaque de Romans-sur-Isère des différents groupuscules qui ont été menés, pour dire à quel point il se sent très à l'aise dans le discours politique général. Et tout cela est bien inquiétant, comme on le disait, malgré cette déroute sur le terrain de l'extrême droite dans le quartier de la Monnaie, on voit comment ils arrivent à occuper l'espace médiatique et à diffuser leur idée. La peste brune est bien là, la vermine bouge encore, et plus que jamais, il est temps de réagir, il est temps d'être vigilant, il est temps de développer des solidarités, et certainement de construire un autre futur qui soit bien éloigné de celui qui nous prépare. Voilà, c'est avec ces tristes informations qu'on fait une première page musicale sur ce 102.2 de Radio Canu. On vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Et fort à propos, on retrouve les Stage Bottles qui nous chantent justement « Sometimes antisocial but always antifasciste ». Just Avec Sometimes Antisocial, Always Antifasciste. Excellente à propos après notre introduction sur les tristes événements de Romans-sur-Isère et les tentatives de récupération par l'extrême droite. Après cette première pause musicale dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire du groupe de Lyon de l'UCL, on va directement passer, une fois n'est pas coutume, à une page internationale parce que on a la chance d'avoir parmi nous un invité spécial, un de nos camarades de l'UCL qui revient directement d'Argentine et qui va pouvoir nous rendre compte là aussi, en lien avec ce qu'on disait d'avant, comment l'extrême droite malheureusement progresse à grands pas puisqu'elle s'est même installée au pouvoir, et on va pouvoir profiter de ses informations et de son analyse par rapport à ça. Donc on va consacrer une large part de l'émission qui reste à cette page internationale consacrée à l'Argentine. Salut Bastien.
Salut, bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Ça fait longtemps.
Bah ouais, écoute, il fallait absolument qu'on profite du fait que tu sois là. On n'avait quand même pas passé à côté. On a pu discuter un petit peu avant l'émission et tu parlais de l'ambiance qu'il y avait actuellement en Argentine et tu parlais aussi de comment les forces progressistes pouvaient s'organiser, comment elle réagissait par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement? C'est quoi l'ambiance après l'élection?
Oui, bah déjà, comme beaucoup de gens le savent ou non, donc les élections présidentielles viennent d'avoir lieu en Argentine, et le résultat a donc été l'élection de Javier Milei, un militant libertarien. Et donc c'est là-dessus que je revenais un peu tout à l'heure et que ce que j'essaie d'expliquer quand on en discute pour décrire un peu le climat. Pour faire court, ça a été un peu la stupeur dans un premier temps, et maintenant le climat, il est surtout à la réorganisation et la tentative de réfléchir tout de suite à comment faire face. Ce que je disais sur Milei, c'est que j'ai beaucoup entendu ici la comparaison avec Trump et Bolsonaro, surtout avec Trump. Comparaison qui n'est pas nécessairement fausse, mais que je pense qu'il est quand même important de rappeler que dans les faits, Milei, c'est la droite de Trump. Les libertariens existent aux États-Unis, ils ont un parti relativement minoritaire, mais à droite de ce que Trump peut proposer comme discours politique. Je pense que quelque part, il n'est pas bien différent, mais en tout cas, il n'assume pas une ligne aussi libérale. Il n'en a pas forcément non plus besoin, puisque les États-Unis, c'est une société déjà très privatisée. Et en fait, ce qu'on retrouve dans le discours de Milei, c'est surtout ça, c'est la volonté de privatiser tout ce qui va être possible de privatiser. Donc, en commençant par l'éducation et la santé, chose qu'il ne va pas pouvoir faire directement, mais qu'il va pouvoir affaiblir par différentes coupes économiques, etc., etc.
Oui, la différence avec les États-Unis, c'est qu'il a de la marge, Milei, puisque tu disais la santé est actuellement encore gratuite malgré l'état catastrophique des hôpitaux. Là, il a encore quelque chose à détruire en tant que libéral économique.
Ouais, la santé et aussi l'éducation. L'Argentine, sur le continent latino-américain, c'est un des rares endroits où l'éducation est gratuite, réellement gratuite jusqu'à l'université, et accessible. D'une manière plutôt efficace. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, y a des problématiques, il y a des manques de profs, il y a des problématiques économiques, X et Y, comme pour la santé. Mais par exemple, c'est très facile d'étudier parce qu'il y a des tours. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'université le matin, l'après-midi ou le soir. Donc on peut y aller après le boulot, on peut essayer de le combiner. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, enfin le 98% des gens qui vont à l'université bossent à côté, mais du coup c'est presque plus facile de le faire qu'ici, paradoxalement. Et oui, c'est ce que je disais un peu, je pense que quelque part, en comparant toujours Trump à Milei, on a plus à perdre parce qu'on n'a pas encore tout privatisé. L'Argentine, elle a subi des énormes vagues de privatisation dans les années 90, avec ce qu'on appelait le menemisme, donc les politiques du président Menem et de ses consorts, qu'on fait très mal. Un exemple qui est souvent repris aussi, c'est celui du secteur ferroviaire. L'Argentine, elle avait un ancrage ferroviaire très efficace avec des trains qui allaient un peu partout sur le territoire. Et quand on regarde donc la carte avant les politiques libérales des années 90 et après, je crois que 80 ou 90% a été détruit par la privatisation.
Et justement, tu parles des universités, je voulais revenir là-dessus. Elle a l'air plutôt adaptée aux étudiants pauvres puisqu'elle est gratuite, aux étudiants précaires parce qu'elle leur permet de travailler. Et pourtant, les étudiants ont majoritairement voté pour quelqu'un qui va détruire leur université.
Ouais, alors les étudiants, ou surtout plus largement les jeunes. Ce qui est surprenant, oui et non, sachant qu'en fait... on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la grande masse, c'est la différence en fait, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas confondre libertarien et fasciste, même si peut-être que dans les grandes lignes ils se rejoignent. Le but de Milei, donc, c'est pas de renforcer l'État, c'est de l'affaiblir le plus possible. Et son discours, il a été construit pas tellement sur une problématique par exemple raciste, mais plus sur sur la problématique économique et comment sortir de cette problématique avec du coup la construction en fait de toute une opposition entre ce que propose Milei, ça serait nouveau, ça serait une nouveauté, et donc du coup je pense qu'on peut dire aussi que chez les jeunes, le fait de pas avoir forcément connu les politiques libérales des années 90 a aidé à pouvoir penser que ça pourrait fonctionner, et en fait un discours aussi beaucoup construit en opposition à tout ce qui se proposait face à lui sur l'échiquier politique. C'est-à-dire, voilà, tous ces gens, ils sont au pouvoir depuis la sortie de la crise de 2001. C'est eux qui nous ont donc amenés à cette situation. Moi, je suis nouveau. Ce que je vous propose, c'est différent de ce qu'eux, ils vous proposent. Et donc, c'est la seule chose qui pourrait fonctionner.
Donc, les gens auraient voté pour lui justement pour ne plus voter pour tous les partis au pouvoir. Il y a notamment deux branches entre la droite et puis les péronistes qui sont plus centristes libéraux. Et pourtant, tu disais tout à l'heure, s'il applique ce qu'il comptait appliquer, des économistes envisagent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 50% d'inflation par mois pendant plusieurs mois
d'affilée. Alors ça serait, ça c'est le cas de l'hyperinflation. C'est ce que justement lui soutient pouvoir éviter et qui selon lui serait arrivé très rapidement si on avait continué avec le même schéma, c'est-à-dire que le précédent gouvernement était péroniste et si c'était donc son adversaire Massa qui représentait les péronistes qui avait gagné. Parce qu'en fait voilà, il faut revenir sur le fait que l'Argentine actuellement est dans une situation en termes d'inflation catastrophique. Sur les 12 derniers mois, on est à 145%. L'année précédente, c'était déjà 110 ou 120. C'est-à-dire que c'est comme ça déjà depuis plusieurs années. Les prix augmentent et changent toutes les semaines ou toutes les deux semaines dans les supermarchés. Et à côté de ça, on a une énorme dévaluation de la monnaie enclenchée surtout depuis les 7-8 dernières années. C'est-à-dire que ça a commencé à empirer avec le dernier gouvernement de droite qui a été au pouvoir, donc jusqu'en 2018. En 2019, il y a eu des élections et ça a changé. Et à partir de là, la monnaie s'est vraiment cassée la gueule. Avant le précédent gouvernement de droite de Macri, on avait un pesos à l'arrivée de Macri, quelque chose comme 13 pesos pour un dollar. Et là, aujourd'hui, on est, je regarde pas les chiffres tous les jours, mais on est à quelque chose comme 1045 ou 1050 pesos pour un dollar. Donc t'as en fait vraiment ce discours qui est que tout le monde voit bien que la situation peut pas continuer. L'inflation, de toute manière, va augmenter. Alors Milei s'est fait élire en disant qu'il allait régler l'inflation en 2 heures. Il disait ça partout. Moi, j'arrive et en 2 heures, je règle l'inflation et on revient à une situation normale. Et il est déjà en train de reculer là-dessus. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé à dire, mais ce que tout, justement tous les économistes sérieux disaient, que c'était impossible, et enfin, de toute façon c'était relativement visible, mais il est déjà en train de dire qu'il lui faudra environ 2 ans. Et que là, on va rentrer dans une phase, alors, je suis pas économiste, donc du coup, je ne retrouverai pas, mais d'inflation particulière, qui est une inflation avec une baisse de l'économie générale. C'est-à-dire que son plan, pour pouvoir fonctionner, suppose environ 2 ans d'augmentation de l'inflation et de baisse de la productivité. Ce qui, vu la situation actuelle,
ce serait plus acceptable, en fait, pour les gens.
C'est la grande question, en fait. Nous, ce qu'on se demande en face, c'est comment il va pouvoir gouverner. Comment il va pouvoir mettre ça en place. Alors, sachant qu'il ne va pas pouvoir tout faire parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement. L'Argentine, c'est un État fédéral avec donc des provinces qui ont des gouverneurs. Gouverneur au masculin, parce que là, depuis l'année qui arrive, ce ne sera que des hommes. Et il n'a pas la majorité là non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a aucun gouverneur de son parti qui va être là. Donc il va devoir, malgré tout ce qu'il disait, faire un gouvernement d'alliance avec la droite.
Et composer avec des gens qui ne sont pas aussi libertariens que lui.
Qui ne sont pas aussi libertariens que lui et qui veulent essayer de remettre un peu la main, c'est-à-dire que composer avec ceux qui étaient au pouvoir quand la droite était au pouvoir il y a quelques années encore.
D'accord. Et donc ça, c'est pour l'aspect économique, mais les libertariens, on sait, ils sont très fans d'économie, ils veulent tout libéraliser, tout privatiser.
Ouais.
Affaiblir l'État. Par contre, il y a un sujet sur lequel ils veulent au contraire renforcer l'État, c'est sur tout ce qui est sécuritaire, régalien, ouais. L'armée, la justice, le ministère de l'Intérieur.
Ouais.
À quoi ça va ressembler la répression sous Milei dans les années à venir ?
C'est difficile à dire à quoi ça va ressembler. Ce qu'on voit clairement, c'est que voilà, c'est ce qu'on en a parlé aussi, et si bien ils veulent absolument tout privatiser, ils vont pas toucher à la police et à tout ce qui touche au sécuritaire. Sur les 20 ministères qu'il y a actuellement dans le gouvernement argentin, ils veulent en garder 8. Donc il y aura 2 super ministères qui toucheront à toutes les affaires publiques et qui seront composés en fait de secrétariats. Et sur tout ce qui reste, on aura le ministère de la Justice, de l'Intérieur, de la Sécurité et
Défense.
Et de la Défense. Merci, je l'ai déjà oublié tout à l'heure. Donc ça fait 4 sur 8 qui ont totalement vocation à organiser la répression. Et là-dessus, c'est difficile pour le moment de savoir jusqu'où ils iront. Ce qui est clair, c'est qu'ils veulent criminaliser le mouvement social et surtout les organisations du mouvement social. Derrière tout ça, il y a sa vice-présidente, donc Victoria Villarroel, qui est, elle, pas une libertarienne au même titre que Milei, enfin du moins elle défend son programme, mais je pense que c'est vraiment important de la nommer parce que moi je la vois comme la représentation de l'idéologie fasciste derrière Milei. C'est une fille de militaire négationniste qui n'arrête pas et n'a pas arrêté durant toute la campagne de revenir en permanence sur le chiffre des 30 000 disparus de la dictature, d'essayer de le minimiser, de le réduire, qui a déjà dit qu'elle voulait absolument faire de son cheval de bataille l'absolution des militaires condamnés pour crimes contre l'humanité en Argentine, donc des suites de la dictature. Et elle est en train d'essayer de mener une bataille politique au sein du parti de Milei, donc la Liberté d'Avanza, la Liberté Avance, pour avoir la main mise sur tout ce qui touche au régalien, au sécuritaire, à l'intérieur, etc. Bataille que, pour le moment, elle n'a pas forcément encore gagnée, mais on sent qu'elle va être une sorte de contre-pouvoir au sein même du gouvernement de Milei. Et qu'il va vraiment falloir la garder à l'œil quelque part, en fait, surveiller et bien analyser et voir ce qu'elle veut mettre en place, parce que elle fait le lien avec l'armée, avec les militaires, avec la police en général, et Et je pense que le danger peut venir d'elle, quelque part.
Parce que tu parlais tout à l'heure des provinces avec des gouverneurs qui ont une certaine partie d'autonomie. Pour la répression, pour la police, pour l'armée, tout ça, ça se joue au niveau fédéral et ce serait uniquement le gouvernement de Milei qui aurait la main dessus.
Non, il y a des différents échelons. Il y a une police fédérale et après, il y a la gendarmerie qui va avoir... qui peut agir seulement sur, dans les provinces. Et un peu comme ici, du coup, qui est lié au pouvoir militaire. Et après, il y a directement tout ce qui est militaire qui ont aussi un pouvoir d'action limité. Mais du coup, eux vont avoir la main directe sur la police fédérale. Et la police, enfin tout ce qui est provincial et toutes les provinces sont à part. Mais bon, après ce qu'on a vu juste après les élections, c'est que quand les premiers chiffres un peu d'analyse ciblée sont sortis sur les différents secteurs de la société qui a pu voter pour Milei, c'est que ce soit dans la police fédérale ou dans la gendarmerie ou chez les militaires, il y a des chiffres d'environ 90% de votants pour Milei. Et je pense que ils vont vraiment avoir à cœur de soutenir la politique pour le coup de Vicharwell parce que bon voilà, ils savent que elle va les défendre dans l'institut, enfin sur le côté institutionnel, sur ce qu'ils sont, sur les protéger, tandis que Milei pourrait quelque part à un moment donné vouloir aussi réduire certains budgets, etc., pour aller vers une privatisation de certains secteurs, parce que c'est son idéologie. Elle, non.
Elle conservera
complètement
tout ce qui peut exister au niveau répressif contre les contestations.
Et au-delà de ça, je crois qu'aussi, c'est elle qui incarne quelque part l'autre face de la pièce, celle de l'ordre social maintenu par le répressif, mais aussi celui de l'ordre moral, avec un certain nombre d'atteintes aux droits des femmes, par exemple, et des minorités.
À l'ordre moral aussi, parce que c'est elle qui représente aussi toute la partie catholique. Milei a souvent fait des sorties et des attaques contre le pape ou contre les catholiques en général, ce qui est assez surprenant parce que du coup c'était risqué pour lui vu que la société argentine est quand même majoritairement religieuse et catholique. Mais oui, elle s'est prononcée un nombre de fois incalculable contre l'avortement, mais Milei aussi. Et c'est déjà une des priorités de son futur gouvernement. Le futur chef de cabinet l'a annoncé, parce qu'il est déjà désigné, qu'ils allaient donc tenter de revenir sur la légalisation de l'avortement dès qu'ils seront au pouvoir. Là-dessus, il y a déjà eu des différentes analyses pour savoir dans quelle mesure ce serait possible. Comme on sait qu'ils n'ont pas la majorité du tout au Parlement, au Congrès, a priori, ça ne devrait pas passer par là, parce que ça risque d'être compliqué pour eux. Par contre, une des possibilités qu'avait déjà annoncé Milei, c'était le recours à une sorte de référendum de consultation populaire.
Du coup, ça c'est pour toute la violence institutionnelle, mais je voulais aussi parler de la violence de la rue. David, là, tu as pas mal parlé de ce qui se passe en France avec les nervis fascistes qui se sentent en roue libre en ce moment en France. Est-ce qu'en Argentine, il existe des groupes militants d'extrême droite organisés ? Et est-ce que l'élection de Milei pourrait, s'ils étaient pour l'instant un petit peu calmes, pourrait les réveiller et leur donner envie de prendre la rue directement ?
Alors, bien sûr, et c'est déjà ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Au travers de pas mal de déclarations dans les médias où ils appellent la société civile du coup à entre guillemets prendre ses responsabilités pour descendre dans la rue et contrer les éventuelles mobilisations qui pourraient y avoir. Le premier point un peu à l'agenda qu'on a et qui va nous montrer un peu la réalité de ça, c'est le 10 décembre, donc qui va être le jour de l'investiture de Milei, pour lequel une grande majorité des organisations sociales et de tout le mouvement social ont appelé à se mobiliser ce jour-là. Et donc on va voir réellement parce que pour le moment c'est un peu dur à évaluer quelles sont leurs forces dans la rue, parce que c'est pas quelque chose qui avait lieu jusqu'ici. Ils n'avaient pas une force organisée présente. Ce que disent les camarades sur place, sur le terrain déjà maintenant, c'est qu'ils sentent quand même que les choses ont un peu changé. C'est-à-dire que dès l'élection, il y a quand même eu pas mal de gens qui se sont mis dans la rue à revendiquer Milei, à le montrer, chose qui ne faisait pas jusqu'ici. Donc c'est pas impossible que ces personnes-là apparaissent pour contester les mobilisations. Il y avait déjà de toute manière un climat tendu avant, c'est-à-dire que même si Milei n'avait pas été élu et s'il avait perdu face à Massa, on savait que le contexte avait déjà changé, rien que par la quantité de votes qu'ils avaient pu faire, par les discours. C'est-à-dire que toute l'élection a été très axée sur le sécuritaire, sur le répressif. Même Massa avait un discours quand même très à droite pour les péronistes.
Bah, obligé de se mettre au niveau, en fait.
Oui, bien sûr. Et puis même dans la rue, ça se sentait. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est palpable. Et qui est logique, parce qu'ils soufflent en permanence sur la braise et ils font ce que font toutes les extrêmes droites du monde, pour le coup, c'est de monter les pauvres contre les pauvres et d'essayer de faire en sorte qu'une grande partie de la société pense que la situation allait où allait à cause des organisations sociales, à cause de toute la gauche en général. Et du coup, il y avait déjà une tension dans la rue qui existait, qui s'est pas encore jusqu'ici vraiment matérialisé dans une contestation violente. Après, est-ce que ces gens qui étaient déjà un peu énervés avant vont vraiment se mobiliser et descendre dans la rue ? Ça, on va le savoir, je pense, très vite.
Et dans le doute, enfin, rassure-nous, du coup, est-ce que la réponse populaire antifasciste est prête ?
Quel est l'état du mouvement social en Argentine actuellement, en effet ?
Le mouvement social est... En termes de nombre dans la rue, est fort. Ça, c'est clair. Il est vivant, il est présent, de toute façon, il existe, l'Argentine. Alors là, on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais c'est un contexte social très particulier qui fait que les organisations sociales, surtout de tout le secteur qu'on appelle piqueteros, sont très fortes, ont une capacité de mobilisation importante. Après, ce qui est difficile à évaluer, c'est dans quelle mesure on va être capable de continuer à mobiliser de cette manière-là, avec une forte augmentation de la répression en face. Ça, c'est difficile pour le moment. Mais oui, il faut rester positif. Il faut rester positif aussi sur le fait que voilà, il y a effectivement tout le discours, en quelque sorte les fake news aussi qui ont été balancées par Milei tout le long de la campagne, notamment la dollarisation, plein de choses comme ça, qui va pas pouvoir faire de suite. En plus de ça, il faut rester positif aussi sur le fait que il a été élu avec une forte avance, enfin avec 55% des suffrages, c'est beaucoup, mais c'est un vote très contestataire. C'est pas une élection avec, enfin, c'est pas 55% de la population qui milite pour Milei, pour Vicharvel et qui est déjà viré dans le fascisme. Et c'est des gens qui vont, enfin, c'est aussi beaucoup de gens qui vont très vite s'énerver de la situation. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès le lendemain ou le surlendemain de l'élection, il y avait déjà pas mal de secteurs, du coup, plutôt pauvres des votants et votantes de Milei, qui, sur les réseaux sociaux notamment, qui balançaient pas mal de trucs, un peu genre « maintenant, va falloir nous montrer que ce que t'as dit, t'allais pouvoir le faire. » Parce que les gens veulent sortir la tête de l'eau, parce que la situation n'est pas vivable, et surtout, s'il y a l'empire, elle va pas être vivable. Et là, ce qu'on voit déjà, et ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'elle va empirer. Et c'est ce que, de toute façon, c'est ce qui serait passé aussi avec Massa dans une autre mesure. Mais du coup, qu'est-ce qui va arriver quand la situation va empirer et que tout le monde va bien se rendre compte que ce gouvernement ne fait rien de plus que souffler sur les braises toujours et empirer encore plus quelque chose qui devrait. Enfin, la zone tampon, elle n'est pas énorme. Il n'y en a pas. Donc l'espoir, c'est un peu ça. C'est qu'il. Moi, je vois pas vraiment très bien dans quelle mesure il va pouvoir gouverner. Je pense que le mouvement social peut s'étoffer face à ça, parce que justement, il y a quand même, j'espère, beaucoup de secteurs qui vont très vite se rendre compte de l'impasse dans laquelle on est avec ça, et rejoindre les mobilisations. Après, le point d'interrogation, c'est celui que tu as soulevé juste avant, c'est quelle capacité, quelle possibilité on aura à se mobiliser et à descendre dans la rue en fonction de ce qu'ils vont mettre en place en face. Et ça, c'est un peu difficile de l'évaluer parce que je pense qu'ils vont quand même y aller très fort en termes de répression, qu'ils vont pas avoir de problème à le faire. Après, bon, on verra à quel point, on verra si finalement ils sont obligés de reculer un peu parce qu'ils ont tellement perdu en termes d'opinion publique, etc., qu'ils vont devoir un peu. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit le discours.
Oui, tu disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs centaines de manifestations rien qu'à Buenos Aires tous les mois.
Ouais, plus que ça, ouais.
Je crois entre 700 et 800.
Je crois que sur le pays, ils parlent de 800 à 900 régulièrement, mobilisation par mois, ouais.
Et dont des fois où on peut carrément camper devant un ministère pendant 3 jours,
ouais, ouais.
Sans qu'il y ait d'affrontement violent, même s'il y a des tensions.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est des trucs qui jusque-là était possible. Après, je pense que ça va quand même avoir changé parce qu'ils se sont aussi fait élire en promettant à une partie de la population que ça allait changer n'allait plus avoir lieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment des classes moyennes, qui sont fatigués d'avoir des mobilisations qui bloquent tout le centre-ville tous les jours. Mais bon, ces mobilisations, elles ont lieu parce qu'il y a une situation qui fait qu'on n'a pas le choix qu'elles aient lieu et la situation ne va pas changer. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais oui, il y a régulièrement, toutes les semaines au moins, des mobilisations de plusieurs dizaines de milliers de personnes en plein centre-ville sur ce qui s'appelle l'avenue la Nueva de Julio, qui serait l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. En plein milieu, on avait, parce qu'il ne va plus exister, le ministère du développement social, et régulièrement on campe devant pendant un jour, 2 jours ou 3 jours, en fonction, quand il y a certaines revendications, jusqu'à ce qu'ils nous reçoivent et qu'ils acceptent de négocier au moins une partie de ce qu'on revendique.
Et peut-être une dernière question, justement, pour rebondir là-dessus, finir peut-être sur une petite note d'espoir. Comment ça se passe en Argentine si on veut destituer un président? Est-ce que c'est possible si la mobilisation est suffisamment forte que Milei n'aille pas au terme de son mandat?
C'est arrivé une fois en 2001, les 19 et 20 septembre 2001. Bah, comment ça se passe? Je pense comme ça se passe dans...
Est-ce qu'au niveau institutionnel, il existe quelque chose comme ça ou est-ce qu'on
il avait démissionné, hein,
mais envahir un palais présidentiel?
Je sais pas, je pense pas que, enfin, bah, la méthode, je pense qu'elle est la même partout, hein. C'est qu'il y a un moment donné où la tension est telle que les mobilisations suffisent plus et que, à l'époque, l'Argentine était entrée dans une phase presque pré-insurrectionnelle et où l'armée et la police s'étaient fait submerger et n'avaient pas su comment réagir. Enfin, n'avaient pas su comment réagir. Il y avait eu 39 morts et plus de 500 blessés. Mais le contexte économique était aussi différent. Après, c'est vrai que du coup, on se demande si on va pas un peu vers ce genre de situation. Avant que ça arrive, il y avait eu quand même quelques années de encore plus catastrophiques qu'actuellement, avec notamment la mise en banqueroute des banques même, pas très longtemps avant. Donc c'était encore différent comme situation. Mais on espère un peu ça, hein. On sait qu'il y a une capacité de mobilisation et de réponse en Argentine. Elle existe, elle est toujours présente, elle était là il y a 20 ans et elle n'a pas disparu. Pour le moment, on ne sent pas une forte réponse, mais c'est là-dessus qu'il faut compter. Il faut compter sur l'union de toutes les forces possibles dans la rue, espérer que ça puisse... faire pencher la balance de notre côté, qu'à minima on tienne les 4 ans sans trop de casque, quoi. Et puis bah, dans le meilleur des cas qu'on en sorte par le haut et qu'on arrive à les faire sortir de là, ça serait la meilleure des situations. Il faut voir comment. On n'en est pas là, on va pas non plus, mais bon, il y a une capacité de mobilisation réelle qui peut au moins essayer de les affronter.
Pour terminer, Bastien, en dernier mot, un petit mot sur l'état du mouvement libertaire en Argentine.
L'état du mouvement libertaire en Argentine. Un petit mot.
T'as deux minutes.
Bah, le mouvement libertaire, il existe. Il est surtout présent au sein des organisations sociales. Les organisations anarchistes existent dans plusieurs villes du pays. Elles se reconstituent depuis quelques années, ce qui est positif. On sent quand même que la situation fait que beaucoup de personnes qui avaient pu se mettre un peu en retrait commencent à revenir vers ces organisations en se rendant compte qu'on en a besoin et qu'on va avoir une vraie nécessité à rediscuter et voir vers où on va. C'est peut-être pas le mouvement le plus actif du monde actuellement, mais pas parce qu'il n'existe pas, sinon parce que les militants et militantes sont extrêmement prises et présentes dans les organisations du mouvement populaire, du mouvement social. Et donc ces gens-là sont là, ils militent, ils s'organisent, ils organisent surtout depuis toujours. Et ils continuent de le faire. Et en tout cas, dans le mouvement libertaire, la stupeur n'a pas pris le dessus. Et ça, c'est important. Et donc voilà, tout le monde sait qu'il va falloir serrer les coudes, faire attention et puis voilà, s'organiser et essayer de renforcer nos organisations. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Pour moi, c'est peut-être un peu le mot le plus important, c'est que ce soit dans le milieu libertaire ou dans le mouvement social, la stupeur a pas pris le dessus. Et c'est ce qui était un peu à craindre. Pour l'instant, l'ambiance est plutôt à l'organisation, à voir comment monter un vrai front antifasciste uni, comment on va répondre à ça, comment on va se défendre et s'organiser. Et de toute façon, c'est la seule porte de sortie. Ça va être l'organisation de toutes les forces du champ populaire, de toutes celles et ceux d'en bas, comme on dit là-bas. Et puis c'est ce qui va nous permettre de les combattre, et puis on espère de gagner.
Très bien, on te remercie en tout cas d'être passé dans cette émission Idées Noires ce soir. On te souhaite bon courage pour, reprendre la lutte là-bas dès que tu y retournes.
Merci
pour toutes ces informations. On voudrait juste, avant quand même de terminer cette émission Idées Noires, vous rappeler que ce dimanche, on sera le 3 décembre, et que ce samedi dimanche 3 décembre, à l'initiative de plus de 400 collectifs, associations et syndicats, est organisée une grande manifestation à Paris pour s'opposer à la loi Darmanin, des collectifs, un collectif qui s'appelle l'UCIJ, Unis contre l'immigration jetable, des organisations qui s'opposent à l'attaque inédite contre le droit des étrangers, qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur. Et on sait que le projet de loi Darmanin a été considérablement aggravé lors de son passage au Sénat, et que s'il est voté en l'état, ça sera peut-être la pire des lois scélérates concernant l'immigration qui aura été votée depuis au moins 40 ans. On vous en reparlera dans d'autres émissions Idées Noires, on viendra en détail sur le contenu de cette loi, mais en tout cas, ce dimanche 3 décembre est une date de mobilisation importante qui n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est une date symbolique, c'est le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité qui avait démarré le 3 décembre 1983 depuis le quartier des Minguettes à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. Voilà, c'est sur ces paroles que se termine cette émission Idées Noires. On vous donne rendez-vous mercredi prochain, 20h sur ce 102.2 de Radio Canu, pour une nouvelle édition de l'émission de l'Union Communiste Libertaire, du groupe local de l'UCL. Et puis moi, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes. Merci encore Bastien pour ta venue.
Merci à vous de m'avoir invité, puis bonne soirée à toutes et à tous.
Et bonne soirée, bonne lutte.
Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Idées Noires.